L'écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée avec Arnaud Maurice.
Deuxième épisode sur les projets philanthropiques. Arnaud Maurice, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer ce nouvel épisode, sous quelle forme peut être mis en place un projet philanthropique ?
Alors, constituer sa structure philanthropique est une perspective intéressante. Comme on l'a vu lors de la précédente émission, cela permet de s'inscrire dans un temps long et pour soutenir les causes que l'on a identifiées. Alors, je vais citer deux principales formes que l'on retrouve assez régulièrement, que sont la fondation abritée et le fonds de dotation. Alors, si je dois parler de la fondation abritée, qu'on appelle d'ailleurs assez couramment la fondation, comme son nom l'indique, on retrouve ces fondations abritées par une fondation abritante qui va présenter l'énorme avantage d'assurer toutes les démarches de création, de gestion comptable, financière et juridique. Et l'énorme avantage pour le fondateur, c'est qu'en fait, il va pouvoir se consacrer pleinement à la cause et au choix des projets qui le mobilisent avec une totale autonomie et bien évidemment en bénéficiant du label de la fondation abritante. Et, qui plus est, si cette fondation abritante est reconnue d'utilité publique, elle va pouvoir bénéficier des différentes réductions fiscales liées à l'acte philanthropique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces fondations abritées ont la capacité de recevoir des legs et peuvent être créées, là aussi, par voie testamentaire. Alors, la plupart des fondations abritées, et notamment celles qui le sont à la Fondation de France, sont distributives, c'est-à-dire qu'elles soutiennent des projets menés par des acteurs externes, des associations et des collectifs. Deuxième forme, nous avons le fonds de dotation, qui lui est une structure un petit peu différente, qui nécessite un premier engagement initial de l'ordre d'une quinzaine de milliers d'euros et un dépôt des statuts à la préfecture. Alors, à la grande différence avec la fondation abritée, ben là, en fait, le ou les fondateurs doivent assumer seuls le processus de création, la gestion administrative et comptable. Ils ont donc aussi la responsabilité juridique et fiscale. Et le ou les fondateurs doivent s'assurer que les projets qu'ils soutiennent sont bien évidemment éligibles au regard de l'intérêt général. D'un point de vue fiscal, petite particularité, il n'y a pas de réduction particulière dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière.
Alors, est-ce qu'on peut récupérer les fonds donnés à une fondation ?
Alors, il existe un adage connu des professionnels du droit qui, je cite, précise que « donner et retenir ne vaut ». Donc à travers cet adage, vous l'aurez donc deviné, comme tout don, l'affectation d'un capital, d'un bien ou de ressources à une telle structure est bien irrévocable. Donc, cela va impliquer que ce dispositif doit parfaitement bien être calibré, car les fameux actifs donnés ne pourront jamais revenir dans le patrimoine privé du philanthrope ou bien de ses héritiers. Alors, il existe des modalités moins engageantes qui peuvent être étudiées si on ne veut pas recourir à un fonds de dotation ou à une fondation abritée. On peut citer par exemple la donation temporaire d'usufruit qui va permettre, sur une durée définie au préalable, de donner les revenus soit d'un portefeuille, soit d'un bien immobilier à une association ou à une fondation. Et en ce qui concerne les propriétaires de biens immobiliers, il y a par exemple le dispositif propriétaire solidaire, qui est un petit peu similaire et qui, sans se dessaisir de la propriété de son bien, va pouvoir permettre au philanthrope de le mettre à disposition d'une agence immobilière à vocation sociale, afin de louer des personnes qui sont en difficulté de logement.
Alors, comme le précédent épisode, est-ce que vous pouvez illustrer vos propos par un exemple ?
Oui, bien évidemment, et avec plaisir. Alors, prenons le cas d'un monsieur cette fois-ci qui est marié, qui n'a pas d'enfant, qui se retrouve retraité des services de santé. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui, imaginons-le, a toujours été intéressé par les exclus et a toujours choisi d'aller les rencontrer, de leur parler, d'échanger avec eux et, en gros, de leur donner du temps. Il s'avère que ce monsieur a un patrimoine relativement important, notamment immobilier, et que ce monsieur percevait des revenus très importants, pas forcément nécessaires d'ailleurs à son train de vie, et aussi et surtout lourdement fiscalisés. En fait, ce monsieur, bien évidemment, il ne souhaite pas se dessaisir de son patrimoine, mais la réflexion a été de se dire « qu'est-ce que je peux faire, effectivement, pour continuer à aider ces fameux exclus qu'il avait l'habitude de rencontrer, tout en assurant la transmission à ses neveux, puisque, je le rappelle, il n'a pas d'enfant. » Donc, à ce moment-là, il lui a été proposé de faire de cette charge un avantage par le recours à une donation temporaire d'usufruit, par laquelle il conserve la propriété de ce bien, mais par contre, tous les revenus liés à la gestion de ces biens arrivaient directement au profit d'une association pour pouvoir aider les exclus. Et ce, sans que lui, dans son patrimoine personnel, n'en subisse d'imposition, puisqu'il ne percevait à la fois plus les revenus fonciers et il n'était plus non plus redevable de l'impôt sur la fortune immobilière. Petit exemple qui permet d'illustrer en fait ce qu'il est possible de faire.
Alors quels sont les avantages de ces dispositifs ?
Alors, ces dispositifs qui, je le rappelle encore une fois, sont temporaires, hein, on va plus les considérer comme des temps d'apprentissage. Alors, temps d'apprentissage pourquoi ? Ben, pour affiner, par exemple, son projet philanthropique, qu'il soit personnel ou qu'il soit familial, pour comprendre les besoins présents et futurs de la cause que l'on entend soutenir, d'interagir aussi, surtout avec les organismes bénéficiaires. Donc, comment les fonds sont utilisés, quel est le retour du terrain, quel est l'impact, en fait, sur la cause bénéficiaire, mais aussi une information sur ben, qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc, l'enjeu, en fait, c'est d'obtenir un retour sur son investissement, entre guillemets, philanthropique. À quoi ma philanthropie a-t-elle contribué ? En quoi a-t-elle permis d'améliorer la situation des bénéficiaires ? En fait, ces différentes étapes, elles vont permettre à la fois de nouer la confiance et surtout de valider l'efficacité et la transparence du projet philanthropique, qui sont autant de préalables avant de confirmer un projet bien plus important.
Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode.
Merci bien.
C'était Arnaud Maurice pour l'écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée.